Juges chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Le titre de mon partage ce matin, c'est « Choisis la vie ». J'ai été amené à réfléchir à cette étude lorsque j'ai constaté que le monde dans lequel nous vivons semble se dérégler un peu plus chaque jour. Lorsque je regarde les informations, j'ai l'impression que la machine monde se dérègle sans que quiconque sache comment l'arrêter. Ce sont des scandales à répétition que nous découvrons, qui ne cessent de défrayer la chronique, qui partent de la spéculation financière sur les dollars, sur l'euro, à la spéculation sur la viande de cheval. En fait, tout semble subir dans notre monde un dysfonctionnement incompréhensible. Tout échappe à notre contrôle. Notre vie semble échapper à notre contrôle. Nous ne contrôlons pas ce que nous mangeons. Nous ne contrôlons pas l'endroit dans lequel nous vivons. Si vous le demandiez aux Espagnols, ils vous diraient combien de millions d'entre eux se font expulser de leur logement chaque jour du fait de la crise. Nous ne contrôlons pas ce qu'il y a sur notre compte bancaire. Si vous demandez aux Chypriotes, ils pourraient vous répondre combien cette machine se met en mouvement et se dérègle chaque jour un peu plus. Et dans un monde dans lequel nous voyons que nous ne contrôlons même pas ce que nous mangeons, nous nous sentons de plus en plus insécurisés. Nous voyons que les choses qui peuvent nous arriver ne dépendent plus vraiment de nous. Que notre vie semble dépendre de personnes qui n'ont pour seule motivation que de se remplir les poches le plus possible. Que notre vie dépend de banquiers véreux, de spéculateurs fous. Qu'elle dépend parfois d'assemblées européennes qui prennent des décisions compliquées. Dans une situation telle que celle-ci, où les hommes ne savent plus à quel saint se vouer, je réalise que nous en arrivons non plus à vivre, mais à survivre. Lorsque l'on regarde la manière dont nous fonctionnons, je me pose la question de savoir si c'est nous qui mangeons cette viande ou si c'est cette viande qui nous mange. Si c'est nous qui avons autorité sur notre maison ou si c'est notre maison qui nous habite. Si l'argent est notre serviteur ou si nous sommes au service de l'argent. Nous sommes en train de nous battre et en train de courir derrière des choses qui pourtant devraient être acquises, devraient être à notre service. Et c'est cela que nous appelons vivre. Nous nous levons le matin et nous n'avons de cesse de courir après l'argent. Nous n'avons de cesse de chercher le meilleur moyen pour sécuriser le peu que nous avons déjà et pour accroître les richesses que nous possédons. Nous courons en permanence vers une augmentation de nos possessions. Et au final, nous devenons des esclaves de ces possessions. Notre humeur, notre attitude dépend de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans l'abondance et nous louons Dieu de tout notre cœur lorsqu'il nous a bénis. Et lorsque nous manquons de la moindre chose, nous sombrons dans la tristesse et nous remettons en cause notre louange et notre service pour le Seigneur. Ce sont des choses qui devraient être à notre service, qui décident pour nous. Comment est-ce que nous devons louer Dieu? Comment est-ce que nous devons le glorifier? Il y a une publicité que je regardais la dernière fois qui disait « L'argent décide pour vous. De ce que vous mangerez. De l'endroit dans lequel vous allez habiter. L'argent décide pour vous des vêtements que vous allez porter. Il décide des relations que vous aurez. » En réalité, cette publicité semblait dire que l'argent décide de tout. Et je me suis demandé, est-ce là la vie à laquelle Dieu nous a appelés, nous, en tant que chrétiens bien-aimés? Je suis convaincu que non. Je suis convaincu que ce à quoi nous aspirons aujourd'hui, ce n'est plus la vie, mais c'est la survie. Je suis convaincu que ce pourquoi nous nous battons tous les jours, ce n'est plus pour vivre et pour être heureux dans cette vie, mais c'est pour survivre, pour assurer notre subsistance. Et je voudrais, pendant quelques minutes, attirer notre attention sur le fait que Dieu ne dérègle pas. Dieu ne se dérègle pas et il ne change pas l'attention qu'il porte à notre vie. Alléluia. Je dis, Dieu ne se désoriente pas et ne change pas ses motivations premières. Ce qui intéresse Dieu préalablement, ce n'est pas l'argent que nous avons. Ce qui intéresse Dieu d'abord, ce ne sont pas nos possessions. Ce qui intéresse Dieu, c'est de savoir est-ce que nous vivons vraiment. Et pour commencer à répondre à cela, je voudrais signifier, si cela est nécessaire encore, quel est l'attachement particulier que Dieu a, non pas pour nos richesses, non pas pour nos biens, mais pour notre vie. Vous savez que Dieu est celui qui a créé la vie. Alléluia. C'est celui qui, au commencement, a créé le règne animal, a créé le règne végétal. C'est lui qui a soufflé dans les narines d'Adam afin que Adam devienne une âme vivante. Amen. Voyez-vous, le don que Dieu a fait aux hommes qui distingue les hommes de toute la création, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'abondance, ce n'est même pas la multiplication. Le don que Dieu a fait, c'est une vie particulière, une vie spéciale. Voyez-vous, Dieu a dit aux poissons dans les mers de se multiplier, d'être féconds. Dieu n'a pas réservé la multiplication et la fécondité au genre humain. Il l'a dit aux animaux, il l'a dit aux arbres, il l'a dit aux végétaux. Mais lorsqu'il s'agit d'animer l'homme, Dieu a décidé de souffler dans ses narines. La vie que Dieu a donnée à l'homme est une vie particulière, bien-aimé. Et je dis, Dieu a un attachement spécifique à cette vie-là qu'il a donnée aux hommes. C'est pourquoi nous croyons que l'homme n'a pas autorité pour décider de la vie ou de la mort de son contemporain. Nous croyons que nous n'avons même pas autorité pour décider de notre propre continuité dans la vie. Le suicide est un péché parce que c'est une abomination et un acte criminel vis-à-vis de Dieu qui nous a donné la vie. Dieu est particulièrement attaché à votre vie, mes frères et mes sœurs. La vie que nous avons est une signature de Dieu. Il a soufflé dans nos narines de son propre souffle afin que nous vivions. Lui-même se présente comme le Dieu vivant. Psaume chapitre 6 au verset 6 nous présente une intercession spécifique du roi David. Alors qu'il était menacé par la mort, il dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Et le psalmiste pose la question, qui te louera dans le séjour des morts? En psaume chapitre 42 au verset 3, le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Daniel, chapitre 4, verset 34, dit également, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. La Bible nous présente notre Dieu comme le Dieu vivant. Lui-même, il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants. Alléluia. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est particulièrement attaché, mes bien-aimés, au fait que nous soyons en vie et pas au fait que nous survivions. Parce que beaucoup d'entre nous, nous marchons sur la surface de la terre, mais nous ne vivons pas. Beaucoup d'entre nous, nous nous levons chaque matin avec le souffle de vie, mais nous ne vivons pas. Dieu s'intéresse non seulement au fait que nous soyons en vie, parce que nous l'avons vu, il n'a rien à gagner au fait que nous soyons morts. Le psalmiste dit, qui te louera dans le séjour des morts? Pour dire à Dieu, Seigneur, si je meurs dans cette situation, tu n'as rien à gagner. Je veux aider quelqu'un ce matin. Lorsque vous êtes dans des difficultés et que vous priez en disant, Seigneur, aide-moi. Je veux vous affirmer ce matin qu'avant même que vous ne commenciez à élever votre voix pour demander l'aide de Dieu, Dieu a déjà plus envie que vous de vous aider. Parce qu'il n'a rien à gagner si vous mourrez. Si jamais la situation dans laquelle tu te trouves a raison de toi, Dieu aura perdu une louange. Si le problème dans lequel tu te trouves a raison de toi, Dieu aura perdu une bouche pour le louer et des mains pour l'acclamer. C'est pourquoi le psalmiste dans son intercession dit, Seigneur, tu n'as rien à gagner si ce problème-là me surpasse. C'est un autre degré d'intercession. Il dit, Seigneur, je ne prie même pas pour ma propre vie. Je prie même pas pour moi. Je prie simplement pour ton intérêt. Qu'as-tu à gagner si dans cette histoire, je finis par mourir? C'est une autre façon de prier. Dieu est attaché au fait que nous restions en vie. Il est attaché au fait que les situations qui veulent nous bouffer notre vie, nous puissions les surmonter et nous puissions les vaincre. Alléluia. En Marc 12, 27, comme je vous le disais, Jésus-Christ répond en disant, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Maintenant que nous avons établi l'attachement de Dieu à notre vie, à notre souffle de vie, je souhaite vous montrer que Dieu s'intéresse également au type de vie que nous menons. Vous et moi, aujourd'hui, nous respirons tous. Et nous avons le mouvement et l'être. Alléluia. Mais sachez que Dieu se soucie aussi de la qualité de notre vie. Parce que si notre vie n'est pas une vie de qualité, alors cette vie n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu s'intéresse non seulement au fait que je reste en vie, mais il s'intéresse aussi à la façon dont je vis, au type de vie que je mène. Il dit en Marc chapitre 3, versets 4 à 6. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Jésus, dans cette histoire, se trouve dans une synagogue et va opérer un miracle. Il y a un homme qui vient dans la synagogue en permanence et dont la main est sèche. Et Jésus-Christ veut guérir cet homme. Mais il remarque les regards pleins de circonspection de toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée. Parce que selon la loi de Moïse, le sabbat est une période sainte, une période pendant laquelle on ne doit rien faire d'autre que se reposer. Parce que c'est un jour que Dieu a mis à part. Alléluia. Mais Jésus pose une question en disant, est-il possible pendant le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Il dit en quelque sorte que même si j'ai décidé que le jour du sabbat devait être un jour de repos pour tous les hommes, je n'accepte pas que le sabbat soit une raison pour laisser quelqu'un continuer à souffrir. Je n'accepte pas que l'évangile soit une raison, une pseudo-raison pour laisser quelqu'un continuer à souffrir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit qu'il a créé le sabbat. En fait, le sabbat a été créé pour les hommes et non les hommes pour le sabbat. L'argent a été créé pour les hommes et non les hommes pour l'argent. Les richesses ont été créées pour les hommes et non les hommes pour les richesses. La nourriture a été créée pour les hommes et non les hommes pour la nourriture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés? Nous avons l'impression que nous avons été créés pour la nourriture. C'est la nourriture qui nous commande. Que nous avons été créés pour les richesses. Ce sont les richesses qui ont autorité sur nous. Jésus dit, même le sabbat, ce jour que j'ai sanctifié, ne peut pas servir de prétexte pour laisser quelqu'un continuer à vivre une mauvaise vie. Une vie de souffrance, une vie de tristesse, une vie de douleur. La Bible dit que lorsqu'il a dit ces choses, ils ont gardé le silence, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Le résultat de cette guérison, c'est qu'aussitôt les pharisiens sortirent. Et ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Parce qu'il venait d'accomplir un miracle, le jour du sabbat. Il y a donc des gens qui veulent vous faire périr parce que vous accomplissez des miracles le jour du sabbat. En fait, parce que vous remettez les choses dans l'ordre. Il y a des gens qui veulent vous faire périr. Mais continuons quelque part. Ma Bible me fait comprendre que lorsque Jésus-Christ voyait des hommes qui étaient possédés, ils avaient le souffle de vie comme vous et moi. Mais Jésus ne passait pas son chemin. Il voyait des gens qui étaient malades. Pourtant, ces hommes et ces femmes avaient le souffle de vie comme vous et moi. Mais Jésus ne se satisfaisait pas de ce qu'ils étaient en vie. Jésus ne se satisfaisait pas de ce qu'ils avaient le mouvement et l'être. Jésus ne se satisfaisait pas de ce qu'ils étaient encore en train de respirer. Ce n'était pas ça la satisfaction de Jésus. Et ce n'est pas la satisfaction de Dieu que nous soyons simplement en train de vivre. Et lorsque nous disons ces textes, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Nous pensons simplement à la préservation de notre souffle de vie. Mais je veux vous dire ce matin qu'il y a dans la pensée de Dieu bien plus que la simple préservation de notre souffle de vie. Quand Dieu nous dit qu'il nous appelle à la vie, ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie que Jésus-Christ apporte, il dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance », c'est la vie Zoé. C'est une vie abondante. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas suffisant pour Dieu que tu respires. Respirer, c'est bien. Ce n'est pas suffisant. Dieu ne se réjouit pas et ne se satisfait pas de ce que tu puisses marcher, de ce que tu puisses te déplacer. Non. La réjouissance de Dieu, c'est lorsque tu accèdes à la vie pleine et entière à laquelle il t'a prédestiné. Il dit à Adam et Ève, lorsque vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous mourrez. Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance, mais ils ne meurent pas. Puisqu'après Dieu leur dit, désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'après avoir mangé le fruit qui était censé le conduire à la mort, Adam allait continuer à cultiver. Donc ça veut dire que tu peux être en train de travailler, mais tu es mort. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses difficiles. Donc tu peux continuer à enfanter, mais tu es morte. Tu peux continuer à créer des choses, à donner la vie à des choses, mais à l'intérieur de toi, tu es mort. La vie à laquelle Dieu nous appelle n'est pas la vie que les hommes défendent. Ce n'est pas la même vie. Il y a des gens qui vivent mais qui en réalité sont morts. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Sur quelle base définis-tu ta vie? Est-ce sur la base de ton travail? Tu peux être en CDI et être mort. Qu'est-ce qui définit notre vie réelle? C'est cela que moi j'appelle la survie. C'est l'état qui existe entre la mort physique, la véritable mort, et puis la vie et la véritable vie. Et il y a tout un ensemble d'hommes et de femmes qui sont entre ces deux niveaux. D'ailleurs, s'ils en venaient à mourir, on ne se rendrait pas compte de leur disparition. Parce qu'ils ne sont pas en train de vivre, ils sont en train de survivre. Dieu ne se soucie pas du souffle de vie seulement. Il se soucie davantage du type de vie que nous menons. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Dieu parle. Il dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et ensuite, il dit virgule, la bénédiction et la malédiction. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et souvent, nous mettons là un point. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Dans ce texte, Dieu montre qu'une vie, en fait, que la vie est assimilable. La vie, selon lui, la vraie vie, s'assimile à la bénédiction. Et la mort s'assimile à la malédiction. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La vie selon Dieu équivaut à la bénédiction. Si nous ne vivons pas dans la bénédiction, au sens de Dieu, en réalité, nous ne vivons pas. Et si nous ne vivons pas dans la bénédiction, au sens de Dieu, en réalité, nous sommes dans la mort. Choisis la vie. Vous et moi, nous sommes sur la terre aujourd'hui, pas par choix. Nos parents ont décidé d'avoir des enfants. Et nous voici. Ça veut dire que notre vie n'est pas le résultat de notre choix. Comment Dieu peut-il dire à Israël? Le simple fait que Israël puisse entendre Dieu lui parler signifie que Israël est déjà en vie. Signifie que Israël existe déjà. Vous ne me suivez pas. Si je me présente devant quelqu'un et que je lui dis « Choisis la vie », pour que la personne entende ce que je dis, il faut qu'elle soit déjà en vie. Est-ce que vous me comprenez? Pourtant, cette vie-là n'est pas le résultat de son choix personnel. Son père et sa mère se sont mis d'accord pour avoir des enfants. Israël n'est pas le résultat de son propre choix. Ce n'est pas de la germination spontanée qui a été faite pour Israël. C'est Dieu qui a choisi de créer une nation à partir d'Abraham. Alléluia. Mais Dieu se présente à des hommes et des femmes qui sont déjà en vie. Et il leur dit, choisissez la vie. Ça veut dire que même lorsque nous sommes déjà en vie, et que cette vie n'est pas le résultat de notre choix personnel, nous sommes quand même à un stade là où nous pouvons décider de vivre indépendamment du choix que nos parents ont fait. Il y a une dimension de la vie qui appartient à notre choix personnel. En fait, au lieu de dire « choisis la vie », j'ai envie de te dire « choisis ta vie ». Choisis ce que sera ta vie. Alors que nous sommes dans un monde où tout le monde se bat pour se mettre au service de l'argent, Dieu se présente devant toi et te dit « Fils, choisis quelle sera ta vie dans ce monde ». Alors que tout le monde se met au service de la duplicité, Dieu se présente devant toi et te dit « Ma fille, choisis quelle sera ta vie, quel sera le type de vie que tu vas mener sur la terre des vivants ». Nous pouvons donc choisir la vie que nous vivrons. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Bob était son nom. Bob travaillait en tant que cheminot, à l'entretien des wagons sur les chemins de fer. Et toute son équipe connaissait Bob pour son pessimiste flagrant. Dès qu'il y avait le moindre problème, Bob disait, une catastrophe va se produire. Il voyait tout de façon absolument négative. C'était impossible que Bob voie quoi que ce soit de bien, de positif, dans une quelconque situation. Un jour, alors que tout le monde avait reçu la permission de rentrer un peu plus tôt, par un malencontreux concours de circonstances, Bob s'est retrouvé enfermé. En fait, il s'est enfermé dans un wagon qu'il était en train de réparer. Ce wagon était un wagon frigorifique. Il a commencé à taper sur les murs du wagon en criant « Venez m'aider, je suis enfermé !» Sauf que tous les employés étaient partis. Il a tapé jusqu'à ce que ses mains soit en sang. Il a crié jusqu'à ce que sa voix disparaisse. Venez m'aider, je suis enfermé. Mais sur le chantier, il n'y avait plus personne. Bob s'est alors assis dans un coin et il a commencé à réfléchir. Et il a dit, je me retrouve ici enfermé tout seul dans un wagon frigorifique. Je sens que je vais bientôt mourir. Et Bob a pris un crayon à papier et une feuille qu'il avait dans sa poche. Et puis il s'est mis à rédiger ses dernières volontés et à expliquer comment il se sentait. Et au fur et à mesure, puisqu'il était dans un camion frigorifique, dans un wagon frigorifique, au fur et à mesure, le froid commençait à l'envahir. Bob sentait comment est-ce que la fraîcheur commençait à rentrer dans sa chair, dans ses os. Il se sentait au fur et à mesure frigorifié. Et il écrivait, je ne sens plus les extrémités de mes doigts, je n'arrive plus à bouger. C'est une mort atroce que de mourir congelé. Et il écrivait tout ce qu'il était en train de sentir. Il disait, il n'y a plus personne pour m'aider. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le lendemain, lorsque ses collègues de travail sont arrivés et qu'ils ont ouvert ce wagon, malheureusement, ils ont trouvé effectivement Bob mort, transi, mort de froid, avec, comme il l'avait écrit, les bouts de doigts gelés, ainsi de suite. Et vous me direz, c'est normal, c'est ce qui devait arriver. Mais il y a une question à laquelle aucun d'entre eux n'a pu répondre. Ils se sont tous demandé, comment Bob a-t-il fait pour mourir de froid? Parce qu'au début de l'histoire, je vous disais que le wagon était justement là pour réparation. C'était un wagon qui était en panne. La température à l'intérieur du wagon n'avait aucune différence avec la température à l'extérieur du wagon. Le wagon n'était pas branché. Mais Bob est mort de froid. Parce que Bob avait choisi sa vie. Bob avait décidé de croire dans sa tête qu'il faisait froid dans ce wagon. Alors que c'était un wagon en panne. Il avait choisi de croire dans son esprit qu'il sentait le froid atteindre toutes ses extrémités. Bob est mort de froid dans un wagon chaud. Parce que Bob a choisi sa vie. Alors, dans cette histoire, nous voyons le pouvoir que nous avons dans notre pensée, dans nos déclarations, dans ce que nous croyons. Et la suite du texte de Deutéronome dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, virgule, pour aimer l'Éternel. Je dis, généralement nous mettons un point après choisis la vie, mais c'est une grossière erreur. Parce que tu peux choisir la vie et rester dans la mort. En réalité, de tous les types de vie qui existent, Dieu dans ce passage nous montre ce qu'est vraiment la vie. Il y choisit la vie afin que tu vives pour aimer l'Éternel. En réalité, si tu ne vis pas pour aimer l'Éternel, tu ne vis pas. Dis ça à ton voisin, si tu ne vis pas pour aimer l'Éternel, tu ne vis pas. Il dit, afin que tu vives pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Si tu ne vis pas pour obéir à sa voix, en fait, tu ne vis pas. Il dit ensuite, pour t'attacher à lui. Si tu ne vis pas pour t'attacher à lui, alors tu ne vis pas. Ma question ce matin, c'est pour demain. Je vais demander à quelqu'un, pourquoi vis-tu? Pourquoi te lèves-tu le matin? Lorsque tu te lèves le matin, quel est l'objectif de ta vie? Lorsque tu poses ton premier pied sur le sol, est-ce que tu vis vraiment pour aimer Dieu? Est-ce qu'il est vraiment au centre de ta motivation? Si ce n'est pas pour l'aimer que tu vis, alors bien-aimé, tu as besoin de résurrection. Si ce n'est pas pour obéir à sa voix que tu vis, alors tu as besoin de résurrection. Tu es en mouvement, tu te déplaces, tu évolues, mais en réalité, tu ne vis pas, tu es en train de survivre. C'est ça qui change les circonstances. En fait, c'est ça qui inverse les priorités. Je m'explique. Lorsque Dieu dit à Israël, choisis la vie afin que tu vives pour aimer Dieu, Dieu sait que lorsque nous l'aimons, il pourvoit nos besoins. En fait, comme nous avons mis Dieu à la première place, Dieu se charge de gérer le reste de la hiérarchie. Vous comprenez? Mais lorsque nous n'avons pas mis Dieu à la première place de nos motivations, le sens de nos priorités est complètement chamboulé. Et c'est comme ça que l'on arrive à des situations là où l'argent, qui devait être le serviteur, devient le maître. On arrive à des situations là où les choses qui devaient être acquises et normales deviennent des choses après lesquelles nous courons. Pour quelle raison ? Parce que nous n'avons pas choisi la vie pour aimer Dieu. Chacun d'entre nous choisit la vie pour faire ce qu'il veut faire. Et personne ne peut te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais Dieu dit, pour que ta vie soit agréable, pour que ta vie soit heureuse, l'objectif de ta vie, ça doit être d'aimer Dieu. Et dans les 10 commandements, il le dit clairement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. À quoi est-ce que tu dépenses ton énergie quotidiennement? Est-ce vraiment à aimer Dieu de toute ta force? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes émotions. Toutes tes émotions doivent tendre vers l'amour de Dieu. La question que je te pose, c'est est-ce que véritablement toutes tes émotions tendent vers l'amour de Dieu? Et il y a ensuite de toute ta pensée. Est-ce que toute ta réflexion tend à te pousser de plus en plus à aimer ce Dieu-là? Il dit, tant que tu n'as pas choisi la vie pour m'aimer, tu ne sais pas encore ce que c'est que vivre. Quelqu'un dit amen. Tant que tu n'as pas encore choisi la vie pour t'attacher à moi, tu ne sais pas encore ce que c'est que vivre. Quelqu'un m'a dit, j'étais en entretien. J'ai connu Christ à Shiloh. C'est depuis quelques temps, c'est seulement maintenant que je découvre Dieu. Je glorifiais Dieu parce que je réalisais combien nous sommes utiles pour que des hommes et des femmes apprennent à le découvrir à travers nous. Alléluia. Mais elle me disait, mais j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps avant. Et c'est cela que vous ressentez lorsque votre vie n'est pas centrée sur Dieu, sur le fait d'aimer Dieu. Vous avez le sentiment de perdre votre temps. Vous avez le sentiment de tourner en rond dans votre vie. Vous avez l'impression que vous faites beaucoup et vous récoltez peu. Parce que votre sens des priorités, en fait, votre liste des priorités a été déréglée. Elle a été déréglée par la société dans laquelle nous vivons, qui nous oblige à courir sans cesse vers un peu plus d'argent, à courir sans cesse un peu plus de relations, à courir sans cesse un peu plus de connaissances, à courir sans cesse. Mais Dieu dit, ce qui doit être prioritaire, c'est le fait de s'orienter vers l'amour de Dieu. On a demandé à Jésus, s'il fallait résumer la loi de Moïse, que dirais-tu? 5 livres que Moïse a écrits, tellement de commandements, Jésus les a résumés en donnant 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, je vous donne aujourd'hui le secret pour changer de vie. C'est Jean qui dit ceci. 1 Jean chapitre 3 au verset 14. À toutes les personnes qui sentent qu'elles ne sont pas vraiment en train de vivre la vie qu'elles devraient vivre. 1 Jean chapitre 3 au verset 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et il ajoute, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Il peut aller au travail, il peut aller à l'église, il peut aller dans les fêtes de famille, il peut aller dans les lieux de socialisation. Mais s'il n'a pas d'amour pour son frère, il demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Changer notre vie est à notre portée. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais vous comprendrez que Dieu dit, je prends contre toi à témoin le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? On va lire un texte qui en donne l'explication. Deutéronome 30, 11 à 16. Je vais lire simplement au début. Il dit, Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Ta vie n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera dans le ciel pour aller chercher ma vie. Il dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il dit, ce commandement-là, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. 1. Dans ta bouche. 2. Et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Il dit, je prends contre toi à témoin le ciel et la terre, de manière à ce que tu ne puisses pas dire, c'est à cause de force supérieure, de force que je ne maîtrise pas, de force qui échappait à mon contrôle, que je n'arrive pas à mener une bonne vie. Et on a souvent tendance à dire ça. Je ne suis pas heureux aujourd'hui parce à cause de telle personne qui a fait ceci. Ou à cause de telle réglementation que le gouvernement a votée. Dieu dit, le fait de choisir ta vie ne dépend pas du ciel. Ne dépend pas de la terre. Il dit, c'est quelque chose qui est tout près de toi, à ta portée, dans ta bouche et dans ton cœur. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour t'attacher à lui. Choisis la vie.